Chapitre 7. Des Silmarils et de l'agitation des Noldor. En ce temps-là furent créées ces merveilles qui, de toutes les œuvres des elfes, allaient devenir les plus célèbres. Car Fëanor, désormais à sa pleine grandeur, s'était absorbé dans une nouvelle idée, ou peut-être l'ombre d'un pressentiment lui fit-elle entrevoir le destin qui se préparait. Et il réfléchit à un moyen de perpétuer la lumière des arbres, splendeur du royaume béni, en un ouvrage impérissable. Il entreprit alors un long labeur secret, où il versa tout son savoir, toute sa puissance, toute sa subtile habileté. Et l'ayant mené à bonne fin, il mit au monde les Silmarils. Leur aspect était celui de trois grands joyaux. Mais nul ne saura avant la fin quand Fëanor reparaîtra, lui qui périt avant le lever du soleil et se trouve désormais aux halles de la tente et ne revient plus parmi ses semblables. Nul ne saura, avant que le soleil expire et que la lune déchoie, de quelle substance ils étaient faits. Elle avait l'aspect cristallin du diamant. Pourtant, elle le surpassait en dureté, si bien qu'aucune violence n'en pouvait abîmer ou rompre la surface au sein du royaume d'Arda. Et pourtant ce cristal était aux Silmarils ce que le corps est aux enfants d'Ilúvatar, la maison où réside son feu intérieur, qui est en elle, mais est aussi partie du tout, et qui en est la vie. Et le feu intérieur des Silmarils, Fëanor le composa de la lumière entremêlée des arbres du Valinor, qui vit encore en eux, bien que les arbres se soient desséchés il y a longtemps et ne brillent plus. Ainsi, même dans les profondeurs de la plus sombre cache, les Silmarils brillaient de leur propre éclat, telles les étoiles de Varda. Et pourtant, comme ils étaient en vérité une chose vivante, ils se plaisaient à la lumière qu'ils recevaient et restituaient en des nuances plus merveilleuses qu'à l'origine. Tous ceux qui vivaient en Aman furent pris d'admiration et d'étonnement devant l'œuvre de Fëanor. Et Varda bénit les Silmarils afin que dorénavant, nulle chair mortelle, ni mains impures, ni engeance du mal ne puissent les toucher sans être brûlés et flétris. Et Mandos présagea que les destinées d'Arda, air, terre et mer, étaient renfermées en eux. Le cœur de Fëanor était profondément lié à ces objets qu'il avait faits de ses mains. Lors, Melkor convoita les Silmarils et leur incomparable éclat, dont le seul souvenir lui dévorait le cœur comme une flamme. Dès lors consumé par ce désir, il chercha toujours plus ardemment le moyen d'anéantir Fëanor et de détruire l'amitié des Valar et des Elfes. Mais il dissimula ses intentions avec ruse, et rien ne se voyait encore de sa malveillance dans les dehors qu'il revêtait. Longtemps il fut à l'œuvre, et au début son labeur fut lent, autant que stérile. Mais qui sème le mensonge, à terme fait bonne récolte. Et bientôt, il peut aussi faire trêve pendant que d'autres moissonnent et sèment à sa place. Même Melkor trouvait des oreilles pour l'écouter et des langues pour renchérir sur sa parole. Et ses mensonges passaient d'ami en ami sous forme de secrets censés montrer la sagacité de qui les détient. Les Noldor expièrent durement la folle indiscrétion de leurs oreilles par la suite. Voyant que beaucoup penchaient pour lui, Melkor prit l'habitude de les fréquenter, et parmi ses belles paroles en étaient tissées d'autres, et ce, de manière si subtile que beaucoup de ceux qui les entendaient se figuraient ensuite qu'elles avaient surgi de leur propre esprit. Il suscitait en leur cœur la vision des puissants royaumes qu'ils eussent pu gouverner selon leur gré, libres et puissants dans les terres de l'Est. Alors, des bruits se mirent à courir, disant que les Valar avaient fait venir les Eldar en Aman par jalousie, craignant que la beauté des Quendi et la faculté créatrice qu'Ilúvatar leur avait impartie ne devinssent si grandes que le Valar ne pusse les régenter si les elfes prospéraient et se répandaient de par le vaste monde. En ce temps-là, qui plus est, si les Valar avaient connaissance de la venue des hommes encore à naître, pour lors les elfes n'en savaient rien, car Manwë ne le leur avait pas révélé. Mais Melkor leur parla secrètement des hommes mortels, voyant que le silence des Valar pouvait être détourné à de mauvaises fins. Il ne savait encore que peu de choses des hommes, car tout absorbé par sa pensée dans la musique, il n'avait guère prêté attention au troisième thème d'Ilúvatar. Mais le bruit courait désormais parmi les elfes que Manwë les tenait en captivité, afin que les hommes puissent venir les supplanter dans les royaumes de la Terre du Milieu, étant donné que les Valar auraient plus d'emprise sur ces êtres autrement frêles et éphémères, spoliant ainsi les elfes de l'héritage d'Ilúvatar. Il n'y avait guère un mot de vrai dans cela, et les Valar n'ont jamais eu que peu d'emprise sur la volonté des hommes. Mais beaucoup de Noldor crurent ces paroles néfastes, ou les crurent à moitié. Ainsi, avant que les Valar s'en fussent avisés, la paix du Valinor fut empoisonnée. Les Noldor se mirent à maugréer contre eux, et beaucoup se gonflèrent d'orgueil, oubliant quelle part de leurs biens et de leur savoir leur venait en don des Valar. Cette nouvelle flamme, cette soif de liberté et de royaume plus vaste, n'était nulle part plus vive que dans le cœur avide de Fëanor. Et Melkor riait sous cape, car ses mensonges touchaient la cible qu'il s'était fixée, lui qui haïssait Fëanor plus que tout et ne cessait de convoiter les Silmarils. Mais on ne souffrait pas qu'il s'en approche, car bien que Fëanor les portât à son front lors de grandes fêtes, ils étaient autrement sous bonne garde, enfermés dans les chambres secrètes de son trésor à Tirion. Car Fëanor se mit à chérir les Silmarils d'un amour cupide et ne voulut plus les montrer, sinon à son père et à ses sept fils. Il ne se rappelait guère plus à présent que la lumière qu'il renfermait n'était point la sienne. Fëanor et Fingolfin, les deux aînés de Finwë, étaient de grands princes honorés de tous en Aman. Mais ils étaient devenus orgueilleux, chacun jaloux de ses droits et de ses possessions. Melkor colporta alors de nouveaux mensonges à Eldamar, et il vint aux oreilles de Fëanor que Fingolfin et ses fils entendaient usurper la suzeraineté de Finwë et de la branche aînée de Fëanor et les supplanter avec l'assentiment des Valar, car ceux-ci, murmurait-on, étaient mécontents que les Silmarils fussent à Tirion et non placés sous leur garde. Mais à Fingolfin et Finarfin, on disait « Gare ! L'orgueilleux fils de Myriel n'a jamais porté dans son cœur les enfants d'Indis. Le voilà désormais puissant, et il a son père à sa main. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il vous chasse de Tuna. » Et Melkor, voyant que ses mensonges couvaient et que l'orgueil et la colère sourdaient parmi les Noldor, leur parla d'armes. Et à cette époque, les Noldor commencèrent à forger des épées, des haches et des lances. Ils fabriquèrent aussi des boucliers portant l'emblème de clans et de maisons rivales. C'étaient là les seules armes qu'ils portaient au grand jour, et des autres ils ne parlaient pas, car chacun croyait être le seul à avoir été mis en garde. Et Fëanor établit une forge secrète dont Melkor lui-même n'avait pas connaissance. Et là, il trempa des épées redoutables pour lui-même et pour ses fils, et il confectionna de grands casques aux plumets écarlates. Matan se repentit amèrement du jour où il avait transmis à l'époux de Nerdanel tout le savoir qu'Aolé lui avait enseigné à la forge. Ainsi, par le mensonge, les bruits malsains et les perfides conseils, Melkor alluma la discorde dans le cœur des Noldor, et à terme, leurs querelles amenèrent la fin des beaux jours du Valinor et le crépuscule de sa gloire d'autrefois. Car à présent, Fëanor incitait ouvertement à la rébellion contre les Valar, clamant sa volonté de quitter le Valinor pour le monde extérieur et de délivrer les Noldor de l'esclavage s'ils étaient prêts à le suivre. Une grande agitation régna alors à Tirion, et Finwë fut troublé, et il appela tous ses seigneurs en conseil. Mais Fingolfin accourut en ses halles et se tint devant lui, disant « Mon roi et père, ne vas-tu pas contenir l'orgueil de notre frère Curu Finwë, que l'on surnomme bien à propos l'Esprit de Feu? De quel droit parle-t-il au nom de tous les nôtres comme s'il était roi? Toi et nul autre parla devant les Quendi il y a longtemps, les priant d'accepter la convocation des Valar en Aman. Toi et nul autre conduisit les Noldor sur le long chemin, à travers les périls de la Terre du Milieu, à la lumière d'Eldamar. Si tu ne t'en repentis pas aujourd'hui, tu as au moins deux fils pour honorer tes paroles. » Mais tandis même que parlait Fingolfin, Fëanor entra dans la salle à grandes enjambées, armé de pied en cap, son grand casque sur son chef, et à son côté une puissante épée. Ainsi nous y voilà comme je l'avais deviné, dit-il. Mon demi-frère voudrait me devancer auprès de mon père, comme en toute autre chose. Lors, se tournant vers Fingolfin, il tira son épée, criant « Va-t'en d'ici et prends la place qui te revient !» Fingolfin s'inclina devant Finwë, et sans un mot ni un regard à Fëanor, il passa hors de la salle. Mais Fëanor le suivit et, sur le seuil de la demeure du roi, l'arrêta, et il pressa la pointe de sa brillante épée contre la poitrine de Fingolfin. « Vois, demi-frère, » dit-il. « Vois cette lame plus acérée encore que ta langue. Essaye seulement une autre fois d'usurper ma place et l'amour de mon père. Et peut-être délivrera-t-elle les Noldor de celui qui se voit en maître d'esclaves. » Ces paroles furent entendues d'un très grand nombre, car la demeure de Finwë était sur la grande place au pied de la mine d'Onne. Mais à nouveau Fingolfin ne répondit rien, et passant silencieusement à travers la foule, il alla trouver son frère Finalfin. Or, l'agitation des Noldor n'échappait pas à l'attention des Valar. Mais ces graines avaient été semées dans l'obscurité, et comme Fëanor avait été le premier à s'élever ouvertement contre eux, ils virent en lui l'instigateur de ce désordre, lui dont l'entêtement et l'arrogance étaient notoires, bien que tous les Noldor fussent désormais remplis d'orgueil. Et Manwë s'affligeait, mais il observait sans mot dire. Les Valar avaient amené les Eldar chez eux en toute liberté, pour rester ou partir. Et s'ils jugeaient que partir serait folie, ils ne pouvaient pour autant les en empêcher. Mais voilà que les gestes de Fëanor dépassaient les bornes, suscitant la colère et la consternation des Valar. Et on l'appela à comparaître devant eux aux portes de Valmar, afin qu'il répondît de ses paroles et de ses actes. Furent également convoqués tous ceux qui avaient eu part à cette affaire ou qui en savaient quelque chose. Et Fëanor, debout devant Mandos dans l'anneau du destin, fut sommé de répondre à toutes leurs questions. Ainsi, la racine fut enfin déterrée et la malveillance de Melkor mise au jour. Et Toulkas quitta immédiatement le conseil pour le saisir au corps et le conduire de nouveau en jugement. Mais Fëanor ne fut pas lavé de tout blâme, car lui seul avait brisé la paix du Valinor et tiré l'épée contre son frère. Et Mandos lui dit « Tu parles d'esclavage. Si esclavage il y a, tu n'y peux échapper, car Manwë est le roi d'Arda et non d'Aman seul. Et cet acte était illicite, en Aman ou hors d'Aman. Cette sentence est d'ores et déjà émise. Pour 12 ans, tu quitteras Tirion, où cette menace fut proférée. Jusque-là, prends conseil auprès de toi-même et rappelle-toi qui tu es et ce que tu es. Mais après ce terme, l'affaire sera laissée en paix et la faute considérée comme réparée si d'autres veulent bien t'en libérer. » Fingolfin dit alors « Je libérerai mon frère. » Mais Fëanor ne fit aucune réponse et se tint silencieux devant les Valar. Puis, il tourna les talons et quitta le conseil et la cité de Valmar. Ses 7 fils l'accompagnèrent dans son bannissement, et dans le nord du Valinor, ils établirent une place forte et un trésor parmi les collines. Et là, à Formenos, ils entassèrent une multitude de gemmes, de même que des armes, et les Silmarils furent enfermés dans une chambre de fer. Le roi Finwë y vint également, en raison de l'amour qu'il portait à Fëanor. Et Fingolfin régna sur les Noldor à Tirion. Ainsi, les mensonges de Melkor prirent un semblant de vérité, même si Fëanor, par ses propres actes, avait provoqué lui-même ce dénouement. Et l'amertume semée par Melkor ne mourut point, mais subsista encore longtemps entre les fils de Fingolfin et ceux de Fëanor. Or, Melkor, voyant ses machinations révélées au grand jour, se taira et passa d'un lieu à l'autre comme un nuage dans les collines, et Toulkas le chercha en vain. Alors, il sembla aux gens du Valinor que la lumière des arbres avait décliné, et les ombres de toutes choses dressées s'allongèrent à cette époque. On raconte que pendant un temps, nul ne revit plus Melkor en Valinor, et qu'aucune nouvelle de lui ne vint aux oreilles de quiconque, jusqu'au jour où il surgit inopinément aux portes de Formenos et parla avec Fëanor. feignant l'amitié, usant d'arguments tortueux, il l'exhorta de renouer avec ses idées de fuite et à secouer le joug des Valar. Et il dit « Vois combien tout ce que j'ai dit était vrai, et comme te voilà injustement banni. Mais si le cœur de Fëanor est toujours aussi libre et hardi que le furent ses paroles à Tyrion, je lui viendrai en aide et l'emmènerai loin de ce pays mesquin. Car ne suis-je pas Vala, moi aussi ? Oui, certes, et plus encore que ces orgueilleux personnages assis à Valmar. Et j'ai toujours été l'ami des Noldor, plus habile et plus vaillant qu'aucun autre peuple d'Arda. » Or, le cœur de Fëanor se ressentait encore de sa douloureuse humiliation devant Mandos, et il regarda Melkor en silence, se demandant s'il ne pouvait en effet lui renouveler sa confiance, du moins pour l'aider dans sa fuite. Et Melkor, voyant que Fëanor hésitait, et sachant que les Silmarils tenaient son cœur en otage, dit enfin « Voici une place forte et bien gardée, mais ne t'imagine pas que les Silmarils pourront demeurer en sécurité dans aucun trésor du royaume des Valar. » Toutefois, sa ruse outrepassa son but. Ses mots entamèrent trop profondément et éveillèrent une flamme plus vive qui ne l'escomptait. Et Fëanor jeta sur Melkor un regard foudroyant qui perça tous ses beaux dehors et déchira l'épais manteau de son esprit, mettant à nu son âpre convoitise des Silmarils. Puis la haine l'emporta sur la crainte de Fëanor, et il maudit Melkor et le somma de quitter les lieux, disant « Hors de ma vue, corbeau des geôles de Mandos !» Et il claqua les portes de sa demeure au visage du plus puissant des habitants d'Ea. Sur quoi Melkor s'en fut dans la honte, car lui-même était en danger, et pour lors, il n'entrevoyait pas l'heure de sa vengeance. Mais son cœur s'emplit d'une colère noire. Et Finwë fut saisi d'une grande peur, et il dépêcha aussitôt des messagers auprès de Manwë à Valmar. Or, les Valar étaient assis en conseil à leur porte, inquiets de voir les ombres s'allonger, lorsque les messagers arrivèrent de Formenos. Oromë et Tulkas se levèrent incontinent, prêts à donner la poursuite. Mais à cet instant même, des messagers accoururent d'Eldamar, rapportant que Melkor s'était enfui par la Kalakelia. Et de la colline de Tuna, les elfes l'avaient vu filer en grand courroux telle une nuée orageuse. De là, dirent-ils, il était parti vers le nord, car les Teleri d'Alqualondë avaient vu son ombre passer leur havre en direction de l'Araman. Melkor quitta donc le Valinor, et pour un temps, les deux arbres brillèrent de nouveau à plein, et le pays fut rempli de lumière. Mais les Valar cherchèrent en vain quelques signes de leur adversaire. Et tel un nuage lointain qui s'avance et menace toujours davantage, lentement porté par un vent glacial, un doute vint assombrir la joie de tous les habitants d'Aman, dans la crainte de quelque malheur encore à venir.